présenté ce soir par Stanislas Vazak.
Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. 4600 suppressions d'emplois chez Renault, fermeture du site de Choisy-le-Roi. Le constructeur français paye la crise sanitaire, mais aussi une stratégie hasardeuse. L'analyse d'Hakim Kasmi dans ce journal. Gérard Collomb n'a plus le soutien des macronistes au municipal à Lyon. L'ancien ministre de l'Intérieur a choisi de faire alliance avec la droite. Pierre Neveu reviendra sur la fin de la relation privilégiée entre Emmanuel Macron et Gérard Collomb. Des scientifiques du monde entier remettent en cause l'étude du Lancet sur les dangers de l'hydroxychloroquine contre la Covid-19. Les explications à suivre de Tara Stegel. Trois nuits d'émeute à Minneapolis après la mort d'un noir lors de son interpellation. Les autorités américaines ont envoyé la garde nationale pour tenter de ramener le calme dans la ville. Renault va donc supprimer 4600 emplois en France, près de 10% de ses effectifs dans l'Hexagone. Le constructeur a présenté ce matin un plan d'économie de 2 milliards d'euros, plan qui prévoit la fermeture de l'un de ses 14 sites industriels français, celui de Choisy-le-Roi. L'activité de recyclage de l'usine du Val-de-Marne sera transférée à celle de Flins dans les Yvelines. Hakim Kasmi, bonsoir.
Bonsoir Stanislas.
Hakim, l'effondrement du marché automobile en raison de la crise sanitaire ne suffit pas à expliquer les déboires de Renault. Le constructeur français paye aussi des erreurs stratégiques.
Oui, une stratégie notamment basée sur les volumes. Lorsque Carlos Ghosn dirigeait encore l'alliance Renault-Nissan, son objectif était de devenir numéro un mondial devant le japonais Toyota et l'allemand Volkswagen. Ce qu'il obtiendra à partir de 2018, en devenant pour la première fois numéro un mondial avec plus de 10 millions de ventes de véhicules. Mais voilà, le marché, lui, s'est retourné à partir de 2019. D'abord pour le japonais Nissan, qui fait partie de l'alliance, avec des ventes qui ont chuté notamment en Amérique du Nord, mais aussi en Chine, où Nissan était troisième. Cette baisse des ventes, eh bien, elle s'est aussi contaminée. Elle est venue ensuite après en Europe et a donc perturbé Renault. Mais voilà, Renault, qui pensait être en croissance, avait lancé un vaste plan de croissance avec de nouvelles usines. Résultat, aujourd'hui, le constructeur se retrouve en surcapacité et la crise du Covid n'a pas arrangé les choses. Tout comme la crise de gouvernance, lorsque Carlos Ghosn a quitté le groupe, eh bien, personne n'a su remettre en cause les plans qu'il avait mis en place. Résultat, aujourd'hui, bourse relancée, Renault compte sur l'électrique. Il était sommé par le gouvernement de faire tous ses véhicules électriques en France. La Zoé, qui pour l'instant est faite à Flins, va donc passer, elle, à Douai, comme deux autres modèles qui devraient arriver dans la gamme de gros SUV très rémunérateurs qui vont coûter entre 40 000 et 60 000 euros. Mais faut-il que le marché soit au rendez-vous? Car pour l'instant, en France, les ventes de véhicules électriques ne représentent, Stanislas, que 0,1%.
Hakim Kasmi, merci. Et l'on reparle de Renault dans le temps du débat avec Emmanuel Laurentin juste après ce journal. Si l'usage de la voiture a forcément diminué avec le confinement, la pratique du vélo, elle, est en train d'exploser. D'autant plus qu'avec la crise sanitaire, de nombreux usagers préfèrent éviter les transports en commun. Alors pour tenir compte de cet engouement, le gouvernement a présenté ce matin un plan vélo réactualisé de 20 millions en avril. Le fonds vélo va passer à 60 millions d'euros. Véronique Roberotte.
La mesure a été lancée au début du mois et connaît un franc succès. 70 000 réparations en moins de 20 jours. Les réparateurs de bicyclettes n'ont pas fini de remettre en état nos vieux vélos. L'aide de 50 euros aux particuliers est donc maintenue. Le ministère vise grand, 1 million de vélos réparés d'ici la fin de l'année. La liste des réparateurs agréés reste accessible sur le site de la FUB, la Fédération des usagers de la bicyclette. Plus de cyclistes, cela signifie plus de places de stationnement. Des places pour garer les vélos vont être créées temporairement pour l'instant. Et pour ceux qui envisagent de se mettre ou se remettre à la bicyclette, motivés par le beau temps, ils pourront bénéficier d'une formation gratuite. C'est le coup de pouce remis en selle. Le vélo, ça ne s'oublie pas, mais on ne sait jamais. Autre mesure du plan vélo, une aide est prévue pour les collectivités qui souhaitent pérenniser des pistes cyclables temporaires mises en place dans le cadre du déconfinement. Un appel à projet du Fonds de mobilité active sera lancé le mois prochain pour aider les collectivités qui en auraient besoin à transformer des pistes cyclables temporaires en pistes définitives, a expliqué Elisabeth Borne, une ministre de la transition écologique ravie du changement de regard des Français sur le vélo. des années de politique vélo gagnée en quelques semaines seulement, se réjouit Elisabeth Borne.
Véronique Robérotte, merci. Le ministère de la Culture a publié aujourd'hui le calendrier de réouverture des principaux musées dans le cadre de la deuxième étape du déconfinement. À Paris, le musée d'Orsay rouvrira le 23 juin, le centre Pompidou le 1er juillet et le musée du Louvre le 6 juillet. La rupture semble désormais consommée entre Gérard Collomb et La République En Marche. Le parti présidentiel retire son investiture à l'ancien ministre de l'Intérieur pour le second tour des municipales à Lyon, car Gérard Collomb a choisi de faire alliance avec les Républicains. Pour la métropole de Lyon, il laisse même la tête de liste au candidat LR François-Noël Buffet. S'agissant de la ville de Lyon, c'est le candidat de la droite Étienne Blanc qui s'efface derrière Yann Cuchera, le protégé de Gérard Collomb. Pierre Neveu, bonsoir.
Bonsoir Stanislas.
Avec cette alliance à droite, Gérard Collomb renonce à diriger la métropole lyonnaise, mais surtout, il met fin à sa relation privilégiée avec Emmanuel Macron.
Et on peut dire tout d'abord que c'est une page qui se tourne pour les Lyonnais. 20 ans de règne, mais au-delà de cette fracture locale, eh bien c'est une fracture totale avec Emmanuel Macron et le parti présidentiel La République En Marche, car aujourd'hui s'exprime plus que de la déception de la part d'un des tout premiers marcheurs, un désamour. Les Français ne s'y retrouvent plus dans la politique conduite par le chef de l'État, explique l'ancien ministre de l'Intérieur, qui s'affranchit de son compagnonnage. Emmanuel Macron a voulu embrasser trop de choses en même temps, dit-il, et de poursuivre. Un certain nombre de ceux qui étaient à l'origine d'En Marche ont aujourd'hui disparu. Fermer le banc. Cette liberté de ton n'est pas nouvelle. Alors, au gouvernement, l'ancien socialiste était déjà sorti de son devoir de réserve pour dénoncer le manque d'humilité de l'exécutif, ce qui lui avait valu une franche explication de texte avec son ami Emmanuel Macron. Reproche collectif, dira-t-il plus tard. Puis à l'automne 2018, Gérard Collomb quitte la place Beauvau et dans une passation de pouvoir glaciale face à Édouard Philippe, il dresse un état des lieux sombre des quartiers et appelle alors à la reconquête républicaine. On le voit, le temps a passé depuis 2017 où sous les ordres de l'Élysée, Gérard Collomb ne pouvait retenir ses larmes lors de l'investiture d'Emmanuel Macron. Il évoquait alors une relation quasi fusionnelle. Aujourd'hui, son alliance avec la droite lyonnaise est vécue comme une trahison. En tous les cas, c'est un départ fracassant qui marque une rupture personnelle avec Emmanuel Macron.
Pierre Neveu, merci. Rappelons qu'à Lyon, les candidats écologistes étaient arrivés en tête du premier tour des deux scrutins, la métropole et la ville de Lyon. La police française a démantelé un important réseau d'immigration illégale en provenance du sud-est asiatique. Au départ, il y a ce drame du camion charnier découvert en octobre en Angleterre. 39 morts, 31 hommes et 8 femmes, beaucoup étaient originaires du Vietnam. Une enquête internationale a permis l'arrestation de 26 suspects, dont la moitié en France. Les 13 personnes interpellées en région parisienne doivent être présentées dans la soirée à la justice en vue de leur mise en examen. Je vous propose d'écouter les explications de Xavier Delrieux. Il est le chef de l'OCRIEST, l'Office central pour la répression de l'immigration irrégulière.
La structure du réseau est très simple, c'est des organisateurs qui font venir des migrants vietnamiens en France, qui les mettent en zone de transit dans des appartements loués sous des fausses identités. Où ils sont regroupés dans différents lieux, donc y compris en Belgique, pour ensuite être convoyés par véhicule sur les zones de chargement dans le nord de la France. Ce qui est intéressant, c'est que suite à la phase du confinement, le mode opératoire a changé. Il n'y a plus de chargement en masse de migrants dans des remorques. Mais c'est plutôt des petits convoyages qui ont été faits dans le nord où ils étaient chargés dans les cabines de chauffeurs poids lourds. Donc nous avons effectué nous des surveillances, y compris pendant la période du confinement, qui ont permis de constater à peu près depuis le mois de mars une dizaine de passages ou tentatives de passage vers la Grande-Bretagne. On a démantelé l'ensemble du réseau. Ce sont principalement des Vietnamiens qui sont tous soit sous de fausses identités, soit clandestins, mais c'est des gens qui sont bien implantés, mais très discrets, clandestins. D'après les éléments d'enquête, on peut estimer aujourd'hui que le passage d'un migrant de la France vers la Grande-Bretagne, ça coûte à peu près 20 000 euros. Donc vous imaginez sur un camion, par exemple, le camion de billets de 39 migrants, la somme que ça peut faire. C'est très très lucratif, d'où l'importance de ces réseaux, et puis le fait qu'ils disposent quand même de moyens assez importants pour tout organiser du Vietnam à la France et jusqu'à la Grande-Bretagne.
Xavier Delrieux, chef de l'Office central pour la répression de l'immigration irrégulière, il répondait à Florence Turme. C'est un nouveau rebondissement dans la polémique autour de l'hydroxychloroquine. Des scientifiques du monde entier contestent l'étude publiée le 22 mai dernier dans The Lancet. Étude qui avait conclu à l'inefficacité du traitement, voire à son caractère dangereux pour le patient atteint de la Covid-19. Cet article de la prestigieuse revue médicale avait même amené la France à bannir l'hydroxychloroquine pour soigner le nouveau coronavirus. Tara Schlegel, bonsoir.
Bonsoir.
Les scientifiques qui contestent l'étude du Lancet pointent des problèmes de méthodologie.
Oui, ils sont au moins 150 médecins d'Oxford, de Cape Town, de l'Imperial College de Londres, en passant par les États-Unis, la Suisse, la Thaïlande, bref, des professeurs du monde entier qui ont écrit une lettre ouverte à la prestigieuse revue The Lancet pour mettre en cause l'étude du 22 mai. Ces scientifiques souhaitent avoir un accès aux données qui ont compilé les dossiers de 96 000 malades soignés dans 671 hôpitaux avec l'hydroxychloroquine. Depuis la sortie de l'étude, le professeur Raoult, grand défenseur en France de ce médicament, s'interroge sur l'homogénéité étrange des données à travers le monde que révèle l'étude et sur le taux de décès très élevé également qu'elle pointe quand il y a des effets secondaires. Les chercheurs voudraient donc savoir comment la société Surgisphere, basée aux États-Unis, qui a obtenu ces chiffres, comment elle a obtenu ces chiffres, et ils voudraient aussi que des experts indépendants, mandatés par l'OMS, réévaluent l'étude du Lancet. Mais les auteurs affirment pour l'instant que leurs données sont confidentielles et dépendent d'un accord qu'ils ont signé avec les hôpitaux. Le Guardian, le quotidien britannique, a mené l'enquête et déjà soulevé un premier lièvre. Un hôpital asiatique se serait identifié par erreur comme australien, ce qui a gonflé artificiellement les morts en Australie. De toute façon, l'étude du Lancet n'est que observationnelle. Il ne s'agit pas d'un essai clinique qui aurait vu des patients sélectionnés prendre ou non le médicament. Ce n'est donc pas une preuve scientifique solide et incontestée. Et l'un des problèmes, c'est qu'elle a conduit à la suspension des essais qui étaient en cours, aussi bien celui financé par l'OMS que l'essai français Discovery. Il se pourrait donc que ces tests rigoureux reprennent et le feuilleton est sans doute loin d'être terminé.
Tara Schlegel, merci. Donald Trump doit s'exprimer ce soir sur la Chine. Le président américain envisage de nouvelles sanctions contre le régime chinois. Pékin qui a adopté hier une loi sécuritaire qui renforce son emprise sur Hong Kong. Nathanaël Charbonnier, l'ancienne colonie britannique, est l'un des nombreux dossiers qui alimente le spectre d'une nouvelle guerre froide entre les deux premières puissances mondiales.
Le dossier le plus chaud en ce moment, c'est bien sûr Hong Kong et le non-respect par la Chine des engagements pris en 1997 lorsque l'ancienne colonie britannique est redevenue chinoise. Mais vous avez une multitude de dossiers qui fâchent. Il y a la pandémie de Covid-19 que Donald Trump qualifie de virus chinois. Il est persuadé que les Chinois ont menti sur toute la ligne. Dans le domaine économique, c'est Huawei et son G5 qui posent problème. Les Américains suspectent le leader chinois de la téléphonie d'utiliser sa technologie à des fins d'espionnage. Voilà pour les gros dossiers, mais on peut ajouter la défense des droits de l'homme avec le sort des Ouïghours, des Tibétains, l'indépendance de Taïwan, mais ce n'est pas fini. Il y a encore le partage de la mer de Chine ou la lutte pour la conquête de l'espace. Bref, c'est bien plus que des dossiers qui fâchent. Aujourd'hui, ce sont bien deux visions du monde qui s'affrontent, d'où le terme de « guerre froide » utilisé depuis quelques jours. Il ne s'agit pas de gérer des différends, mais d'imposer au reste du monde son système. C'est le grand retour du capitalisme contre le communisme. La nouvelle guerre froide des Américains n'est pas contre les Soviétiques, mais contre les Chinois.
Nathanaël Charbonnier. Donald Trump, qui doit aussi faire face à une situation dramatique à Minneapolis, la métropole du Minnesota, vient de connaître 3 nuits d'émeute après la mort d'un noir aux mains de la police. Une vidéo montre cet homme plaqué au sol par un policier qui lui écrase la nuque avec son genou. George Floyd dit qu'il ne peut plus respirer. Il n'a pas survécu à son interpellation. Les 4 policiers impliqués dans l'affaire ont été licenciés, mais aucun n'a été arrêté. Les précision de Bertrand Galichet.
500 hommes de la garde nationale sont venus prêter main forte aux 200 policiers déjà sur place appuyés par des hélicoptères. La nuit dernière, le commissariat auquel appartenaient les agents impliqués dans la mort de George Floyd a été incendié dans un quartier nord de Minneapolis. La situation a dégénéré, une trentaine de magasins ont été pillés pendant des heures sans que la police intervienne. Pour l'instant, les 4 policiers impliqués ne sont que suspendus, ce qui alimente la colère des manifestants. Signe de la tension qui règne à Minneapolis, une équipe de CNN a été interpellé sans motif en direct sur la chaîne d'information du jamais vu. Nous pouvons reculer jusqu'où vous voulez, nous sommes en direct en ce moment. Pardon ? Vous êtes en état d'arrestation. Si vous prenez l'écoute, vous regardez notre correspondant en train d'être arrêté par la police de l'État. N'ai jamais vu une chose pareille. Après avoir été détenu pendant 2 heures, l'équipe de CNN a été libérée avec les plates excuses du gouverneur du Minnesota au président de CNN qui avait immédiatement réclamé leur libération au nom du premier amendement de la Constitution.
Bertrand Galichet, merci. Ces émeutes sont en train de prendre une dimension internationale. La preuve, en Turquie, le président Erdogan s'est emparé de l'affaire. Il dénonce dans un tweet l'approche raciste et fasciste qui a conduit à la mort de George Floyd. Fin de citation. On termine ce journal avec le temps. Demain, sans grand changement, le soleil s'imposera sur la majeure partie du pays, mais il y aura une évolution orageuse sur les reliefs. Les températures minimales seront comprises entre 8 et 16 degrés du nord au sud. L'après-midi, le thermomètre oscillera entre 22 et 32 degrés. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Nathalie Lopez.